Bonjour à tous. Alors, avant de commencer la prédication, je vais faire un préambule. Michael a parlé beaucoup des groupes de maison et j'aimerais juste en parler, en faire un peu de publicité, en tout cas expliquer la place qu'ils ont dans notre Église. Et vous verrez, ce n'est pas sans lien avec la prédication. On veut vivre une vie d'Église sur deux pieds. C'est la formule qu'on a retenue. Alors, comme toutes les formules, c'est de la com. Mais derrière, il y a une idée qu'on veut retenir. C'est que le culte, il y a beaucoup de monde. Et ce n'est pas forcément le lieu où on peut rentrer dans les relations. Or, la Bible, le Nouveau Testament, insiste sur la nécessité de relations, de redevabilité, de faire des choses ensemble, les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on peut vivre sur deux pieds. On encourage à vivre la vie d'Église sur deux pieds, le culte et les groupes de maison. Qu'est-ce qu'un groupe de maison ? Un groupe de maison, c'est un petit groupe de personnes liées à l'Église et qui allie spiritualité et fraternité. C'est les deux objectifs du groupe de maison, grandir dans la spiritualité, c'est-à-dire dans sa relation avec le Seigneur, et grandir dans la fraternité, la relation avec les autres. Progresser en spiritualité, grandir en fraternité avec cinq directions, bâtir un relationnel fort, prier les uns pour les autres, mieux connaître la Bible, passer de la connaissance à la pratique et partager un souci pastoral. Tout ça, je passe vite. L'idée, c'est de dire que ce n'est pas quelque chose au hasard, ce n'est pas une réunion de plus, c'est un endroit où on progresse et où on grandit. Et pour faire ça, eh bien, on met un cadre avec un certain nombre de valeurs qui sont partagées, des choses qui sont, sur lesquelles les membres du groupe se mettent d'accord, comme la confidentialité, tout ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe, ne sort pas. La bienveillance aussi, on n'est pas dans le groupe pour donner des réponses rapides, pour lui dire « t'as qu'à plus prier, ça ira mieux ». C'est vraiment de la bienveillance où on s'accueille et on s'écoute réellement. Il y a une valeur sur laquelle j'aimerais insister en cette rentrée, au moment où on se pose la question d'aller dans un groupe, au moment où on retourne vers le groupe qu'on connaissait, c'est celui de mettre la priorité sur son groupe. Faire partie d'un groupe de maison, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire et on ne pointe pas pour savoir, et toi, dans quel groupe tu es. Par contre, quand on s'engage à être dans un groupe, c'est pour venir. Et moi, je vois les responsables qui, parfois, ont le poids de voir des gens qui annulent à la dernière minute, des personnes qui, ou même qui, sans annuler, qu'on attend et qui ne viennent pas. Aussi, en cette rentrée, au moment où on se réengage, j'aimerais vous inviter à considérer, à faire partie d'un groupe de maison pour grandir, pour progresser, mais le faire sérieusement également. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Si vous pensez que c'est trop pour vous cette année, ne le faites pas. Mais comme le dit la parole, que ton oui soit oui et que votre engagement soit un réel engagement. Voilà. Des groupes de maison. Et pour terminer sur ce sujet des groupes de maison, on croit vraiment qu'on trouve un écho dans la Bible sur les groupes de maison. Je cite ce verset d'Actes chapitre 2. « Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient, les premiers chrétiens, les chrétiens de Jérusalem, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. » On voit un témoignage de chrétiens qui vivent leur foi, leur vie d'église, dans deux lieux, dans le temple et dans leur maison. Et c'est ce que nous voulons vivre également, ce que nous vous encourageons à vivre. Comme je disais, on voit un appui biblique sur les groupes de maison et la richesse de ce qui est vécu ensemble sur cette façon relationnelle, je la retrouve dans un mot, dans le Nouveau Testament. C'est ce mot qui est traduit dans la plupart de nos Bibles, par les uns les autres. Quand on lit le Nouveau Testament, il y a beaucoup de choses qu'on est appelé à faire les uns les autres, les uns pour les autres, les uns avec les autres. On n'a pas de mot exact en français, donc la traduction, elle change d'une phrase à l'autre, mais c'est toujours le même mot en grec qui dit les uns les autres. Il y a beaucoup de choses à faire les uns les autres, réciproquement. Et ce matin, pour la prédication, j'aimerais prendre avec vous un « les uns les autres » qui se trouve dans l'évangile de Jacques, au chapitre 5. Alors, vous pouvez lire avec moi, vous pouvez suivre dans vos Bibles si vous le souhaitez, vous pouvez m'écouter si vous préférez. Jacques, au chapitre 5, je lis ce matin dans la Bible du Semeur. J'affiche le texte également. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 13. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église, ils prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Voici pour notre lecture. L'épître de Jacques n'est pas toujours facile à étudier parce qu'elle donne l'impression d'être un peu fouillis, de partir dans tous les sens. Et de fait, ici, dans ce texte, quand on lit rapidement, on est encouragé à prier, à chanter, on parle de l'onction d'huile pour guérir le malade, on enchaîne sur la confession des péchés et finalement, on termine par la puissance de la prière. Ça semble un peu fourre-tout, on est un peu perdu. Mais ça, quand on étudie, ça a du sens. Et j'aimerais partir de ce verset. Confessez donc vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Confessez vos péchés les uns aux autres. Avouons-le, la confession des péchés dans nos églises protestantes, ça a plutôt mauvaise réputation. Parce que la confession des péchés, on pense tout de suite à l'Église catholique. Alors moi, l'Église catholique, je ne l'ai pas pratiquée. Et quand on évoque la confession, moi je pense à un passage obligatoire au confessionnal, où on liste au prêtre ce qu'on a fait de mal, parfois des petites choses qui sont risibles. Un prêtre qui va nous demander de réciter des prières, et puis c'est bon. Il y a un regard sur quelque chose un peu automatique, un peu bon marché, sans rapport vraiment avec ma vie. Alors, c'est un peu caricatural, je me suis renseigné par des personnes qui l'ont pratiqué. Et c'est pas loin de la réalité, même si c'est un peu plus riche que ça. En tout cas, le témoignage que j'ai reçu, c'est que cette dimension de passage obligatoire, c'est quelque chose de culpabilisant et mal vécu. De quoi parlons-nous ? Confesser, dans la Bible, dans le grec comme en français, ça a plusieurs sens. Le premier, c'est avouer. Avouer, reconnaître une faute. Et il y a d'autres sens, louer, célébrer, ou être d'accord, confesser sa foi. Mais ici, le sens qu'emploie Jacques, c'est bien celui d'avouer une faute, avouer un péché, avouer nos erreurs. À qui avouer, auprès de qui confesser, Le texte nous dit les uns aux autres. Et là, pour le coup, on va se trouver en opposition avec la pratique de se tourner vers un prêtre qui est notre intermédiaire vers Dieu. Nous croyons, protestants, que le pasteur n'est pas un prêtre, que c'est un chrétien avec un ministère particulier confié par l'Église, celui de conduire le troupeau, enseigner, prendre soin, donc un interlocuteur vers qui on peut se tourner facilement, mais pas quelqu'un qui a un rôle spécial d'intermédiaire. Mais je crois qu'il y a un rejet sur la confession dans nos milieux protestants et évangéliques en particulier, et j'en crois ce site web sur lequel je suis tombé en cherchant des commentaires sur ce verset, qui, bien sûr, ne rejetait pas la confession, c'est écrit dans la Bible, mais qui le réservait au péché qu'on peut avoir fait contre les autres. Lorsque j'ai offensé quelqu'un, alors je dois lui confesser ce que j'ai fait et aller vers lui. Franchement, quand je lis ce texte, je ne vois pas la même chose que lorsque Jésus invite à aller vers son frère. Quand je lis ce texte, la première lecture qui me vient, c'est vraiment de confesser les péchés, même s'ils n'ont pas un rapport direct avec la personne. Et je suis rejoint par Douglas Moo, qui a commenté le livre de Jacques, et qui écrit « La confession mutuelle des péchés que Jacques encourage comme une pratique courante, suggérée par le présent de l'impératif, est très bénéfique pour la vitalité spirituelle d'une Église. Le réveil méthodiste en Angleterre au XVIIIe siècle en est une preuve. Tout a commencé lorsque des groupes de chrétiens se sont mis à confesser leurs péchés et à prier les uns pour les autres, selon le commandement de Jacques 5, 16. Avec cette recommandation, prêtons attention à ce commandement de confession des péchés les uns aux autres. Mais il me vient une autre question. Pourquoi ? Pourquoi confesser nos péchés les uns aux autres ? En quoi est-ce que ça va nous aider dans notre foi ? Qu'est-ce que ça va faire ? Le Nouveau Testament ne nous donne pas des ordres comme ça, sortis de nulle part. On a toujours l'explication qui nous montre le bénéfice. Et ici, on la retrouve dans le contexte du passage qu'on a lu. La confession sert à la guérison. La confession des péchés joue un rôle dans la guérison des maladies. Ça vous étonne ? Pourtant, la Bible établit un lien entre péché et maladie. Parfois, la maladie est conséquence d'un péché. On a du mal à y croire aujourd'hui, alors qu'on a la médecine qui explique tout, beaucoup de choses. On peut se dire que dans l'Antiquité, les gens contemporains de Jacques ne comprenaient pas le corps humain aussi bien, et donc du coup, ils avaient des explications spirituelles à des maladies physiques. On peut penser ainsi. On peut aussi s'appuyer sur ce qu'on sait de Jésus et du pardon, de ce qu'on est libéré d'un système de rétribution pardonné par grâce en Jésus-Christ. Mais je crois qu'on aurait tort de rejeter ça aussi vite. D'abord, la médecine n'explique pas tout, il me semble. La médecine constate les maladies, constate quel organe est déficient et essaye de le remettre en route, mais elle n'explique pas pourquoi elle apparaît chez un tel plutôt qu'un autre. Et puis, plus c'est solide, la Bible, le Nouveau Testament lui-même fait le lien entre péché et maladie. Il y a ce passage, il y a aussi 1 Corinthiens 11, où Paul parle de la Sainte Cène, avec les Corinthiens qui prennent ça n'importe comment, et Paul qui leur dit « C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Et j'ai repensé en préparant cette prédication à ce verset qui parle de notre Seigneur. C'est le prophète Ésaïe. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Seigneur Jésus a pris nos péchés et nos maladies. C'est ce qui est dit dans le prophète Ésaïe. Le maladie comme conséquence du péché. Qu'est-ce que la maladie ? Qu'est-ce que la santé ? L'Organisation mondiale de la santé définit la santé ainsi. La santé est un état mental de complet bien-être, physique, mental et social, et ne constitue pas seulement une absence de maladie et d'infirmité. La santé, ce n'est pas seulement ne pas avoir de problème, c'est être bien. Et l'objectif de l'OMS n'est pas de combattre les maladies quand elles arrivent, pas seulement, c'est de rechercher le bien-être complet. Et ça, ça a une influence sur notre style de vie, l'alimentation, l'activité physique, les habitudes de vie. Voilà ce que c'est que la santé. Alors, on pourrait discuter des objectifs de l'OMS, des limites, ça nous amènerait trop loin. Mais on peut considérer le péché sous cet angle. Le péché, ce n'est pas uniquement un acte coupable. Hier, à telle heure, j'ai fait ça, ce n'était pas bien, c'est un péché. Ce n'est pas uniquement ça. Le péché, c'est une orientation de vie. C'est un style de vie dont la Bible nous dit que notre monde est atteint. Un style de vie qui nous éloigne de Dieu. Et un style de vie qui a des conséquences sur nos vies et sur notre bien-être. Des conséquences sur notre santé, au sens large comme au sens physique. Alors, juste pour rééquilibrer ce que je dis, il n'y a pas de lien automatique entre péché et maladie. Et ça aussi, la Bible nous le dit. Tout péché ne cause pas immédiatement une maladie. Et on ne peut pas se cacher derrière ça pour dire « J'ai fait telle chose, puisque je ne suis pas malade, ce n'est pas un péché. » Non, on ne peut pas. Et pareil, toute maladie n'est pas cause du péché. Quand quelqu'un est malade, ce n'est pas forcément qu'il a péché. Le meilleur exemple, c'est Paul qui en donne le témoignage dans 2 Corinthiens au chapitre 12, quand il parle de l'écharde qu'il a dans la chair et que Dieu lui impose quelque chose qui le fait souffrir, qui le limite, qui l'humilie, quelque chose qui est une atteinte dans sa santé au sens large. Et il a reçu cette parole du Seigneur. « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Non, il n'y a pas de lien automatique entre maladie et péché. Par contre, je crois que la maladie est quelque chose qui nous interpelle. Aussi bien sur notre style de vie et faire le point par rapport à notre péché, que une invitation à grandir. Pourquoi confesser nos péchés les uns aux autres, donc, pour être guéris de nos maladies, nous dit Jacques, maladies au sens large, notre mal-être physique, mental, social. La confession comme une lutte contre le péché. Concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce que la confession, comment la vivre concrètement ? Je crois que la première étape de la confession, c'est l'aveu. Avouer. Et déjà, avouer à soi-même. Parce que ce n'est pas toujours évident de détecter le péché dans nos vies. Quand on relit le sermon sur la montagne, ce discours de Jésus dans Matthieu, chapitre 5, 6 et 7, où vraiment Jésus explique le programme, explique ce que c'est que la vie de disciple. Il y a toute une série de plusieurs enseignements de Jésus, où Jésus dit, on vous a dit, mais moi je vous dis. On vous a dit de respecter telle règle, moi je vous dis d'aller plus loin. Au hasard, je prends le premier, on vous a dit qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le grand conseil, et celui qui lui traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Il y a une règle qu'on vous a donnée, eh bien moi je vous dis que c'est plus large que ça, même dans l'intention. Et là il parle des relations entre frères, il continue avec le désir qu'on peut avoir pour quelqu'un, avec le divorce, avec tenir sa parole, avec le renoncement avec la vengeance, l'amour des ennemis. Voulez être stimulé, lisez Matthieu chapitre 5. Et ce n'est pas toujours évident de reconnaître quand on est dans une situation de péché. Pour reprendre par exemple cette question des conflits qu'on peut avoir et de la colère qu'on peut avoir, ce n'est pas facile de distinguer entre une irritation juste qu'on peut avoir, parce qu'il y a une offense à notre égard par exemple. Et quand est-ce qu'on est dans la colère que Jésus lie au meurtre? Le premier pas de la confession, c'est reconnaître où on en est, c'est avouer, c'est dire oui. Oui, je fais cela. Je me disais que ça n'avait pas de conséquences, je me disais que ce n'était pas grave, mais en fait, non. En fait, je suis en train de pécher, je le reconnais. Première étape, avouer. Et pourquoi est-il nécessaire, du coup, de le faire devant quelqu'un d'autre? Est-ce que cela ne suffit-il pas de le faire devant Dieu seul? Pour répondre à cette question, j'aimerais partager un témoignage personnel. Il y a quelque temps, j'avais un problème dans ma vie, une chose que je faisais avec laquelle je n'étais pas à l'aise. Longtemps, je me suis excusé, j'ai cherché des excuses. Je me disais, oui, c'est vrai, ce n'est pas bien, mais est-ce que c'est vraiment un péché? Mais il me restait ce malaise. Et un jour, j'ai voulu avancer et voulu me débarrasser du malaise que j'avais dans ma vie. Et j'avais l'impression que c'était ça qui me retenait en arrière. Car une des choses qui me retenait en arrière. Et j'ai dit, je n'en veux plus. Je me fiche de savoir si c'est un péché ou pas, si c'est mal ou pas, si c'est grave ou pas. Je sais une chose, je n'en veux plus. Alors, j'ai pris un frère et je lui ai dit, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut être ensemble pour prier? Et quand on était tous les deux, je lui ai dit, j'ai telle chose dans ma vie et j'en veux plus. J'ai prié avec lui pour que ça disparaisse. Il a prié avec moi pour que je tienne. Et depuis, j'ai fait un grand progrès dans ce combat. Quand je suis tenté, je me souviens de ce frère. Je me souviens de ce jour. Je me souviens de cette décision. Le faire avec lui, ça a rendu les choses concrètes pour moi. Ça a mis une croix dans le calendrier. Ça a mis une croix dans ma vie. Pour m'aider à tenir ferme, pour me faire progresser. Comment faire pour confesser les péchés? Eh bien, proposition de façon de faire à travers l'exemple que j'ai vécu et qui me vient de cette formation libérée mise en place par l'Église du Marais. On a eu une formation à Clermont. Quand on voit un lien dans sa vie, quelque chose qui nous retient. Prendre une personne, deux personnes, et ensemble, pas un long moment, mais un moment court, direct, où on reconnaît, on avoue sa faute et qu'on prie avec autorité, je n'en veux plus dans ma vie, avec autorité, devant témoin. Et si on reprend le verset 16 de Jacques 5, confessez donc vos péchés les uns pour les autres. J'ai pas écrit complet. Si vous regardez dans vos Bibles, c'est écrit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Confessez et priez, exactement la même chose. Je reconnais ma faute et je prie avec mon frère et il prie. Alors, avec qui prier ? Les uns pour les autres, est-il écrit. J'aimerais quand même donner un conseil de ne pas le faire avec n'importe qui, ou en tout cas de choisir avec attention la personne avec qui on le fait. Dans ce texte sont nommés les responsables de l'Église. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les responsables. Je crois qu'il y a besoin de le faire avec quelqu'un qui à la maturité pour entendre ce contre quoi on lutte, pour quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un dont on est sûr de la confidentialité également. Et il faut avoir conscience que dans l'Église, nous ne sommes pas tous en même point. Nous parlions il y a 2 semaines de la course que nous menons ensemble. Certains viennent d'entrer dans la course alors que d'autres y sont depuis longtemps. Certains ont la maturité pour nous accompagner pour ce genre de choses, d'autres pas encore. Faisons-le avec discernement. Mais en même temps, il est écrit les uns pour les autres. Il y a une notion de réciprocité qui est là. Il ne s'agit pas qu'il y en ait qui confessent quand d'autres accompagnent. Il n'y a pas 2 clans. Il n'y en a qu'un seul. Une seule église où on s'accompagne les uns les autres. Et les groupes de maison dans tout ça, puisque c'est ce que j'ai utilisé comme préambule. Je ne dirais pas que les groupes de maison sont le lieu pour vivre la confession, en tout cas pas avec l'intensité et l'urgence que j'ai décrite. Créer un lieu dans lequel la confession serait obligatoire nous amènerait aux mêmes expériences que ce qu'on reproche à l'Église catholique, à des choses qui sont mal vécues, à des choses dans lesquelles on peut être tenté par l'hypocrisie. Je pense que le meilleur moyen de vivre la sincérité est que ce ne soit pas obligatoire, mais que ce soit volontaire de la personne qui veut se débarrasser d'un péché. Mais les groupes de maison sont des groupes qui crée une ambiance où on veut progresser ensemble. Et j'aimerais vous encourager à ça, à rechercher cette croissance ensemble, à rechercher à progresser ensemble, à prendre le risque de s'ouvrir aux autres pour nous stimuler, pour nous pousser à aller plus loin. Dans le texte que nous avons lu, le texte de Jacques, Jacques commence en disant « Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. » Et s'il les appelle, c'est certainement qu'il est malade et qu'il ne peut pas se déplacer, alité, bloqué, dans une situation telle qu'il en est arrivé à un point de blocage. N'attendons pas d'être atteint dans un point de blocage pour avancer, pour abandonner les liens qui nous retiennent, les péchés qui nous enchaînent. Le but de la confession n'est pas de nous tirer l'oreille les uns aux autres, mais de nous aider à nous libérer les uns les autres, avec la pleine conscience, comme le rappelait Michael la semaine dernière. Dans l'Église, nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous besoin de ce mouvement. Amen. Je vais prier.
Seigneur, alors que nous parlons de péché, je veux te remercier pour ta grâce. Je veux te remercier parce que Jésus est mort pour nos péchés. Aussi bien les fautes concrètes que nous avons commises que l'orientation que nous prenons. Merci Seigneur parce que ce pas, il est fait, il est accompli. Et j'aimerais te prier que tu nous aides à mettre de côté ce qui nous retient, à mettre de côté la fierté de vouloir nous en sortir tout seul, de nous dire que c'est pas si grave et qu'on va réussir à régler ce problème, mais à nous tourner vers toi et à recevoir ton pardon, immérité, mais bien réel. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Et nous te prions de faire grandir ton Église et de nous faire grandir dans ton Église. Au nom de Jésus. Amen.